remercier tous ceux qui nous ont offert de loger chez eux lorsque nous venons sur Hasbrook. Donc on a plein d'adresses. Actuellement, nous sommes chez Pascal et Arlette. Je dois dire que les choses sont rondement menées. Enfin, voilà, on ne meurt pas de faim. On est bien logé. Arlette et Pascal s'occupent de nous pouponnent. Et c'est très plaisant. Et je vais les remercier pour cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous avais parlé d'un collègue, Dominique Morey, donc qui est responsable régional, qui était responsable régional pour le sud de la France. Donc, il avait un cancer qui s'était déclaré au mois de mars. Et donc, il est décédé là, il y a quelques semaines. Il avait tout juste 60 ans, je crois. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était vraiment rempli de l'Esprit de Dieu et qui aimait vraiment le Seigneur, qui faisait un gros travail, notamment sur le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie. Il avait beaucoup de contacts là-bas. Et voilà, c'est une perte pour nous. Mais il est décédé vraiment dignement, avec... aucune espèce de crainte, avec la joie finalement même de rencontrer le Seigneur bientôt. Il a 4 enfants, il a pu prier avec chacun d'eux, il a pu les bénir avant de partir. Et avant quelques semaines avant de mourir, il discutait avec un autre collègue de Portes Ouvertes. Et il lui disait la chose suivante. Il disait, c'est incroyable parce que nous, les chrétiens, en fait, nous vivons comme si nous étions immortels. Nous passons notre temps à des futilités. Nous passons notre temps à nous battre pour des problèmes doctrinaux plutôt que de nous concentrer, nous consacrer à servir le Seigneur et à servir sa gloire. Donc ça, c'était sa réflexion, n'est-ce pas, juste à quelques semaines avant la mort, de dire cela. Et voilà, ça faisait écho à d'autres paroles que j'avais entendues quelques temps auparavant. Une personne qui disait « L'homme moderne est plus motivé par la recherche de notoriété que par l'envie d'accomplir ou de soutenir une cause. » Et ça fait écho aussi à 1 Corinthiens 10, qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et avec toutes ces questions, avec toutes ces, plutôt ces citations, il y a une question pour moi qui est venue, qui a émergé. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui est important, finalement? Qu'est-ce qui mérite notre attention pour que l'on s'engage dans quelque chose? Est-ce que nous savons faire la part des choses entre l'utile et le superficiel? À quoi est-ce que nous voulons consacrer notre temps, notre énergie, notre action? N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes vraiment en mesure de juger? Ou est-ce que nous sommes submergés par nos émotions et ce sont nos émotions qui guident notre engagement? Si on prend l'évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 16, Jésus enseigne les disciples au travers de la parabole du cep, du vrai cep, et comment je l'ai appelé, je ne sais plus, le vrai cep et et le vigneron. Je l'appelle comme ça. Et donc, il, vous rappelez, hein, il développe toute cette parabole. Et au verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Dans cet enseignement, Jésus enseigne qu'il les a choisis, qu'il les a établis pour une raison, n'est-ce pas ? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et c'est pas fini. Afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Donc, Jésus déroule trois temps dans la vie chrétienne. Le temps où on est choisi, établi. Le temps où on part, où on va, on répond à un appel et on porte du fruit. Et le temps où l'on demande. Alors, vous me direz, mais ces temps-là, n'est-ce pas, ne sont pas nécessairement chronologiques. C'est pas d'abord un, ensuite l'autre, et ensuite le dernier. Je suis d'accord. Mais ces étapes, nous devons quand même les passer. Parce que ce qui compte, c'est la somme. N'est-ce pas ? C'est la somme des afins. Afin que, lorsque vous priez, eh bien, vous receviez ce que vous demandez. Moi, je ne sais pas ce que vous recevez lorsque vous priez. Hein, je vous ai lu hier le récit témoignage de ma vie. Je dis, Seigneur, je veux gagner au loto. Et Dieu m'a répondu, mais tu crois au Père Noël. Manifestement, il n'avait pas envie de me donner cela. C'est grossier, n'est-ce pas, comme demande. On n'est pas un peu comme ça malgré tout? On a d'autres demandes qui peut-être ont des apparences beaucoup plus spirituelles, n'est-ce pas? Est-ce qu'elles ne sont pas du même ordre, finalement? Est-ce que, dans le fond, ce n'est pas des demandes qu'on fait pour notre ego? Je vous laisse répondre à ça. Si vous voulez m'en parler après, eh bien, vous ne pourrez pas, parce qu'on s'en va tout de suite après. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Nous avons parfois ce genre de demandes. Mais à ces trois temps dont Jésus parle, il y a, je crois, trois états aussi qui sont liés. Ce premier temps, donc, je vous ai choisi et je vous ai établi, à ce premier temps correspond à une aspiration du cœur, n'est-ce pas ? C'est celle que j'appelle l'état où je suis en phase de vouloir remercier Dieu. Pour le fait qu'il m'ait choisi et qu'il m'ait établi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous asseoir au calme et de réfléchir à ce que ça signifie « Je t'ai choisi ». Non ? Ah, moi j'ai... Je ne sais pas, mais... Lorsque simplement j'y pense, j'ai tout d'un coup une sorte de quelque chose de qui m'envahit, une sorte de joie mêlée d'une reconnaissance extrême, où je me dis, mais Dieu, mais tu es fou de me choisir moi. Mais en vertu de quoi? Il y avait tellement d'autres personnes capables autour de moi et tu me choisis moi, mais ça ne va pas. Est-ce que je ne sais pas si vous avez réussi à gérer ça. Et là, vous comprenez ce que ça signifie que la grâce, n'est-ce pas? Parce que Dieu me dit, mais c'est vrai que tu es un incapable. Mais c'est vrai que tu étais quelqu'un d'ignoble et t'es pas toujours bien encore. C'est vrai que tu sais rien faire. Mais tu sais, je t'aime et je voulais que tu deviennes mon fils. Je t'ai choisi. Quand je t'ai vu, tu étais celui qui me manquait. Tu étais celui qu'il me fallait encore. Et il y a une fierté, n'est-ce pas, qui naît dans le cœur. Waouh, mon Père, c'est Dieu. Oh, qu'est-ce que j'aimerais que chacun, nous puissions avoir cette expérience. Connaître cette joie indicible qui fait que votre cœur s'élève et vous vous dites, mais c'est pas normal. Ce qui m'arrive, c'est pas normal. Mais Seigneur, sans le comprendre, allez, va. Ouais, je te dis merci. N'est-ce pas? Et vous avez votre cœur qui explose de joie devant ce cadeau immérité qui vous a été fait d'être personne, de ne pas avoir la reconnaissance du monde, de ne pas avoir la reconnaissance scolaire, professionnelle. Il y a des gens, quand je leur ai dit que je m'étais converti, ils ne me croyaient pas. Ils ne me croyaient pas. Ils disaient, mais c'est pas possible. On a prié pour toi tant d'années, mais c'est pas possible. On a prié, on n'y croyait pas, en fait. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. On ne sait pas pourquoi, n'est-ce pas? Lorsque on va pour adopter un enfant, les parents choisissent un au milieu de milliers, de millions si on prend la terre. Il y en a un qui est choisi. Ça ne se passe pas toujours aussi bien. Mais voilà. Mais quand Dieu nous choisit, lorsqu'il tourne son regard et qu'il s'arrête sur vous, immédiatement, vous êtes transformé. Immédiatement, cela produit quelque chose. Alors vous me direz, mais Daniel, tu n'as pas lu le reste des versets là. Tu dis ça, mais il manque quelque chose. Parce que si tu continues, tu vas voir. Verset 19, « Je vous ai choisi du milieu du monde et à cause de cela, le monde vous hait. » Finalement, il n'y a peut-être pas besoin de remercier Dieu autant que ça, n'est-ce pas? Puisque le monde me hait. Tu m'as choisi, mais bon, alors ça a un coût alors. Ça veut dire que je dois payer quelque chose pour cela. Ça, c'est le paradoxe, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. C'est qu'effectivement, il y a cette débauche d'amour de Dieu lorsqu'il nous choisit. Et il y a le résultat au quotidien. C'est qu'effectivement, en devenant différent sous la transformation de Dieu, eh bien nous apercevons qu'une grande partie du monde ne nous aime plus. Ce n'est pas qu'ils nous aimaient avant, c'est juste qu'ils nous disent maintenant qu'ils ne nous aiment plus. Alors, on peut à ce moment-là souffrir d'un syndrome, j'appelle ça le syndrome du pantin triste. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Le syndrome du pantin triste. Les chrétiens persécutés le réalisent sans doute beaucoup plus que nous, mais nous, nous le réalisons aussi. C'est que parfois, nous sommes prisonniers des circonstances de la vie, n'est-ce pas? Dieu nous choisit et c'est bien, merci Seigneur. Sauf que ma vie quotidienne, elle n'est pas simple. Je fais, je vis, je suis dans des situations familiales, professionnelles, qui m'emprisonnent. Et je n'ai pas le loisir, n'est-ce pas, de changer cela. Je suis un peu comme Pinocchio. Je suis articulé par les circonstances de la vie et pas par ma volonté. Je me sens un peu comme un pantin. J'ai la capacité de réfléchir, mais je n'ai pas la capacité de bouger parce que ce sont les autres autour de moi et au-dessus de moi qui me bougent. Et je trouve cela insupportable. N'est-ce pas? Ça, c'est une difficulté à laquelle nous devons faire face. Sauf que l'apôtre Paul nous dit que nous devons vivre dans le contentement. C'est lui-même ce qu'il a appris, n'est-ce pas? Philippiens 4, verset 11. Je suis content, en gros, en toutes circonstances, quelles qu'elles soient. On me dit, oui, mais c'est peut-être facile pour toi, dans tes circonstances, mais pour moi, c'est compliqué. Alors, je veux immédiatement renvoyer cela vers l'Église persécutée. Parce qu'il n'y a pas plus pantin qu'un type qu'on met en prison, n'est-ce pas? Et qu'on va extraire tous les jours de sa cellule pour aller interroger et torturer. Et ces hommes et ces femmes ont aussi était choisi et établi par Dieu. Et pourtant, ils apprennent à vivre comme des pantins désarticulés, avec toute leur tête pour réfléchir, mais incapables, beaucoup plus que nous, de gérer leur quotidien et les choses qu'ils vont faire ou ne pas faire. Si vous prenez la Corée du Nord, le simple fait de déclarer que vous êtes chrétien fait de vous un objet. Réellement, on fait de vous un objet. Et on va aller jusqu'à essayer de faire sortir de votre esprit ce que vous croyez. Et si ça ne marche pas, eh bien on va juste vous éliminer et vous mettre en pièces pour que vous disparaissiez du monde. Et là, on pourrait peut-être se tourner vers Dieu et dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? À quoi ça sert de m'avoir choisi, établi pour que je finisse dans une moulinette ou découpé en rondelles ou démembré, comme c'est très souvent le cas? Il faut connaître Dieu pour savoir que même cela a une utilité, n'est-ce pas, pour le royaume de Dieu. Hélène Béran, peut-être certains d'entre vous la connaissent, c'est une érythréenne qui était une évangéliste, chanteuse, et elle a été mise en prison parce qu'elle a continué à faire de l'évangélisation, alors que en 2002, je crois, les églises évangéliques ont été fermées en Érythrée. Elle a été donc saisie, mise en prison, incarcérée. Et elle passait son temps dans les conteneurs à bateaux, parce qu'en Érythrée, il n'y a pas de prison. Donc, on prenait les conteneurs métalliques, on ouvrait juste une petite lucarne, et on remplissait. On remplit encore de gens. Et elle était là, avec beaucoup de ses amis, qui étaient des chrétiens aussi. Et la vie était dure, n'est-ce pas? Parce que dans le désert, la journée, il fait très chaud. Et lorsque vous êtes dans un conteneur métallique, eh bien, la chaleur tape là-dessus et ça devient une sorte de chaudron. Et la nuit, il fait très froid. Parce que la température peut descendre aux alentours de 0 degré. Et les gens tombaient malades. Et donc, jour après jour, ces différences de température, plus les tortures auxquelles ils devaient faire face, faisaient que beaucoup perdaient courage, beaucoup perdaient espoir. Mais pas Hélène. Hélène chantait. Hélène chantait pour rassurer ses amis et pour louer Dieu. Et elle chantait la chose suivante. Elle disait merci. Elle disait merci, merci pour la chaleur du jour. Elle disait merci pour la fraîcheur de la nuit. Elle disait merci pour les maladies. Finalement, ils ont persécuté et maltraité Hélène à tel point qu'ils l'ont laissée pour morte. Et ils ont dit à ses parents de venir pour la récupérer. Parce que les médecins avaient jugé que c'était irréversible et qu'elle ne se remettrait pas des mauvais traitements qu'elle avait subis. Et à ce moment-là, il y a eu une ouverture pour elle pour partir, pour quitter le pays. Et aujourd'hui, elle continue à témoigner dans les pays de l'Europe du Nord où elle a été accueillie. Mais d'autres sont morts. N'est-ce pas? Et tous les jours, des chrétiens meurent comme des pantins désarticulés. On retrouve certains sur des croix. On retrouve certains sous des tas de rochers. Et on laisse juste passer un bras. Et on met une croix dans la main. Ou alors on va tirer sur un chrétien avec un fusil, une Kalachnikov, et on va tirer comme ça, d'abord, dans le sens de la hauteur, et ensuite dans le sens de la largeur, en forme de croix. Il y a toutes sortes de choses qui sont faites quotidiennement sur nos frères et sœurs. Et il n'y a pas plus pantin qu'eux. Comprenez ce que je veux dire. C'est qu'effectivement, on peut ne pas être satisfait de notre quotidien. Ce n'est peut-être pas la panacée. Mais nous avons encore le loisir de servir notre Dieu. Et même nos frères et sœurs, alors qu'ils sont maltraités à l'extrême, savent, parce que Dieu est présent à côté d'eux, parce que l'Esprit de Dieu est présent pour leur attester ce qu'ils font et ce qu'ils subissent, eh bien, n'est pas sans effet dans le monde spirituel. N'est-ce pas, l'apôtre Paul parle d'accomplir ou de rajouter, je ne sais plus ce qu'il dit, aux souffrances de Christ, d'achever. Voilà. Eh bien, ça participe à cela aujourd'hui. Est-ce que nous savons vivre dans le contentement? 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'astuce pour régler ce problème. Mais en tout cas, et je l'ai déjà dit, et je sais que Arlette l'avait bien retenu, le matin, lorsque vous levez, vous avez toujours deux possibilités. La première, c'est de vous lever, de vous dire, ah, encore une journée de terrible qui se présente, ou résolument de tourner votre regard vers le Seigneur et de dire, Seigneur, encore une journée de grâce devant ton trône. N'est-ce pas? C'est une direction que notre cœur doit prendre. Et nous pouvons prier pour demander au Seigneur qu'il accomplisse ça dans notre cœur. Le deuxième temps, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce deuxième temps, c'est celui de l'état dans lequel nous sommes prêts à la confession. Nous sommes prêts à confesser notre foi en Christ. Nous sommes prêts à confesser nos péchés. Nous sommes prêts à confesser ou à déclarer la louange à Dieu en toutes circonstances. Porter du fruit, mais pas seulement ça, porter du fruit qui demeure. C'est-à-dire un fruit qu'on ne peut pas nous enlever. Un fruit qui est permanent, qui naît, qui grandit et qui demeure pour la vie éternelle. Bien entendu, dans le contexte de cette parabole, n'est-ce pas, il est question de demeurer en lui, en Christ, et si nous demeurons, eh bien, lui demeure. Alors on peut le lire, verset 5 du chapitre 15, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il s'agit de cette expérience où Christ est présent par le Saint-Esprit et où nous ne connaissons plus les hauts et les bas des rois de l'Ancien Testament. Vous savez que le Saint-Esprit venait et repartait. Or, dans le cadre de l'adoption qui est la nôtre, nous avons reçu le Saint-Esprit et celui-ci ne part plus. Il reste, il demeure. Mais il y a des exercices qui sont extrêmement importants pour que la présence de Christ par l'Esprit de Dieu soit effective et quotidienne et qu'elle soit attachée à nos pas beaucoup plus qu'en théorie. Parce que bien souvent nous savons ces choses, nous en parlons, même nous les déclarons. Mais en réalité, nous sentons à l'intérieur de nous un vide qui montre que nous ne vivons pas l'entièreté de cela, que nous n'expérimentons pas le fruit qui demeure. Nous sommes parfois obligés d'aller chercher bien loin ce que le Seigneur a fait pour le faire ressurgir. La confession des péchés est un exercice que nous ne faisons pas facilement. Et ça peut se comprendre. Il y a des endroits où on fait des fois des confessions publiques et ce n'est pas toujours bienvenu. Mais malheureusement, je crois que l'Église d'aujourd'hui ne fait pas suffisamment cet exercice. Il n'y a pas, je ne sais pour quelle raison, ce moment où, lorsque c'est nécessaire, je vais aller rencontrer un frère, une sœur, un responsable d'église en qui j'ai confiance pour me confier à lui et lui dire, tu sais, j'en suis là et ça ne va pas. Est-ce que tu peux prier avec moi. Est-ce que tu peux prier pour moi? Tu vois, j'ai fait ceci. Je suis comme cela. J'aimerais que tu m'aides et que ensemble nous puissions aller plus loin. Bien sûr, vous allez me dire, mais moi je fais ça devant le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'aller rencontrer quelqu'un pour le faire et pour le dire. Sauf que dans Jacques, il est dit que c'est important, dans le cadre de la guérison aussi, que de confesser. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas d'en faire un fonctionnement qui serait une institution dans une église. Mais de se mettre en situation de fragilité, d'accepter humblement, de se soumettre à un frère ou une sœur en qui on a confiance et de lui confier ces choses-là. C'est un acte d'humilité que Dieu va reconnaître. Et bien souvent, cela va contribuer à la restauration. N'est-ce pas, quand je vois ce qui est fait pour les chrétiens aujourd'hui, comment on a psychologisé des situations qui en réalité ne nécessitent pas plus que cela. Pas plus que de s'ouvrir et que de dire, mais en fait, ça fait des années que je suis là à faire avoir des travers absolument incroyables dans ma vie. Ça fait des années que je n'arrive pas à régler ce problème avec, je sais pas, la colère ou avec... Il y a plein de choses, n'est-ce pas, qui peuvent survenir dans la vie. Ça fait des années. Est-ce que c'est normal pour un chrétien de traîner des casseroles pendant des années? Et s'il y a un aspect que vraiment j'aimerais souligner, c'est celui-là. Que vous puissiez, lorsque c'est nécessaire, vous trouver un interlocuteur qui va vous recevoir et avec qui, dans l'amour, vous allez pouvoir élever vos voix devant Dieu, afin qu'ils viennent pour restaurer une situation, pour remettre droite une situation qui est tordue. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La confession, c'est aussi la confession de foi en Jésus-Christ. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 2, verset 19. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. N'est-ce pas, vous allez me dire, oui, mais moi je confesse tous les jours ou bien ma vie le confesse. Il y a des situations où c'est difficile parfois de confesser Christ. Et là aussi, si je vous amène dans l'église persécutée, il y a des situations où c'est extrêmement difficile de confesser Christ. Même par la façon de vivre. Dans un pays musulman, la façon de vivre, c'est de prier 5 fois, tourner vers la Mecque. Si vous faites autrement, vous êtes déjà en train de confesser Christ d'une certaine manière. C'était en Mauritanie, un groupe de chrétiens partait là-bas pour livrer des Bibles et ils avaient dans le bus, ils avaient un chauffeur et un guide qui étaient tous les... Enfin, ils avaient un chauffeur et deux guides. Un des guides était chrétien et les deux autres, le chauffeur et un autre guide, étaient musulmans. Et alors qu'ils roulaient, eh bien, c'était l'heure de la prière. Donc le bus s'est arrêté et le chauffeur et le guide sont sortis et l'autre guide n'est pas sorti. Ils sont allés prier, ils sont retournés dans le bus et ils sont repartis. Et là, il y a une discussion qui s'est engagée entre le chauffeur musulman, le guide musulman et le guide chrétien. Et les équipiers de PO qui étaient derrière entendaient ça et comprenait, une personne qui parlait arabe, elle, un petit peu, elle comprenait qu'il était en train de se faire engueuler parce qu'il n'était pas sorti pour aller faire la prière. Et bien entendu, lui, c'est un chrétien. Et il n'avait pas du tout envie de sortir pour faire la prière. Mais la fois suivante, eh bien, quand ils se sont arrêtés à nouveau, il est sorti avec eux pour faire semblant de faire la prière. Et donc, il a expliqué ensuite que voilà, il y avait là un dilemme, une difficulté à résoudre, puisque toute l'équipe qui était derrière était une équipe de chrétiens, mais les deux là ne savaient pas du tout qu'ils avaient des chrétiens dans le véhicule. Donc en Mauritanie, par exemple, donc c'est pas simple, n'est-ce pas, de confesser Christ, même juste par son attitude. Et lorsque, à un moment, les chrétiens se sont retrouvés seuls en compagnie du guide chrétien, dans des cavernes, puisqu'il faisait un peu de tourisme, de convenance, on va dire, à ce moment-là uniquement, il a pu leur déclarer déjà à quel point il aimait le Seigneur et à quel point il était heureux de pouvoir partager un petit peu de sa foi avec des chrétiens d'ailleurs. Et donc ils ont pu prier là ensemble avec lui. C'est pas simple, n'est-ce pas? Confesser Christ. Est-ce que dans notre contexte, nous avons une vie qui confesse Christ? Est-ce que nous portons ce fruit qui demeure? N'est-ce pas, qui ne se sépare pas de nous dans la journée, qui est permanent. Et bien entendu, le résultat de cela, c'est également la louange à Dieu. Déclarer la louange à Dieu, quelles que soient les circonstances. Je vais accélérer. Afin que ce que vous demandiez en mon nom, et ça c'est le troisième temps, afin que ce que vous demandiez en mon nom, il vous le donne. Dans Jacques 4, on lit que nous ne recevons pas, dans un premier temps, parce que nous ne demandons pas, mais réellement, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Pour assouvir nos envies. Hein, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pour gagner au loto. Et là, Dieu n'est pas d'accord. Dieu ne va pas nous donner ce que nous demandons, parce que nous le demandons pour nous, et absolument pas parce que nous le demandons pour lui. Lorsque nous étions en Égypte, il y avait un prédicateur, enfin, c'était un pasteur responsable d'une très grande église, qui, lorsqu'on lui a demandé, mais comment est-ce qu'on peut prier pour vous? Il a répondu, ne priez pas pour nous. Parce que si vous voulez prier pour nous, vous ne saurez pas quoi prier. Vous allez prier pour que la persécution s'arrête. Vous allez prier pour que les prisonniers soient libérés. Vous allez prier pour qu'il n'y ait plus d'exactions contre les chrétiens. Il dit, mais ça, ce n'est pas nécessairement ce que Dieu a en réserve pour nous. Priez avec nous. Priez dans le même sens que nous. Parce que nous sommes dans la situation. Vous voulez nous en sortir. Nous voulons que la volonté de Dieu s'accomplisse. Waouh! Alors, si vous allez dans Josué, je crois qu'on peut faire. Il y a une image, en fait, de cela. Josué, chapitre 5. Donc, Josué entre dans le pays promis. Et il se retrouve face à Jéricho. Il s'agit de livrer bataille. Il y a là 40 000 hommes, 40 000 guerriers qui qui sont prêts à se battre et à en découdre pour remporter la ville. Et au verset 13, alors que Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit. Alors, vous rendez bien compte de la situation, n'est-ce pas? Il n'est pas sur les bords d'une rivière, en train de se promener, de se dire, tiens, il y a quelqu'un ici, je vais voir qui c'est. Il est en situation de guerre. Ils sont autour de la ville de Jéricho en attente de se battre. Et Josué, qui est attentif à tout ce qui est en train de se passer, voit devant lui un homme avec une épée à la main. Et donc, bien évidemment, Josué est allé lui-même avec son épée prête à sortir du fourreau pour aller lui demander des comptes. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu t'es perdu? Et dans ce cas, ton compte est bon. Alors, et j'avoue que j'aime beaucoup cette réponse. Il ne lui répond pas, « Ah non, attends, je suis avec vous, moi, je suis des vôtres, hein? Doucement, fais attention, je suis avec vous. » Il ne lui répond pas ça. Il lui répond « Non ». Je suis le chef, ou dans d'autres traductions, le capitaine de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'aurais bien voulu voir la tête de Josué. Il est prêt à se battre et se retrouve face à quelqu'un qui, sans crainte, lui dit « Non, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. » Et c'est là on voit toute la spiritualité de Josué, n'est-ce pas? On voit qu'il est prêt spirituellement. On voit qu'il comprend vite la situation. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Il ne fait pas une enquête, n'est-ce pas? Il ne le met pas un peu en attente quelque part pour dire, « Bon, je vais vérifier qui tu es, je vais voir avec Dieu, si c'est effectivement, ça correspond. » Josué a quelque chose dans son cœur qui lui montre la réalité des choses. Et immédiatement, il se soumet. J'arrive maintenant. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, prends ton bouclier, prépare ton armée, on va aller lutter dans cette ville. Il lui dit pas ça. Il lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Et vous connaissez la suite. La ville s'est écroulée. Je disais à Pascal, il y a quelques jours, n'importe quel militaire signerait pour cela, n'est-ce pas? Waouh! Si tu me promets une victoire comme ça, zéro mort, pas d'utilisation d'armes, si seulement on pouvait remporter toutes nos victoires comme cela, tourner autour, et ça tombe. Je crois que beaucoup d'armées signeraient pour cela. Mais ce que ça nous enseigne là, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est que Dieu peut nous avoir préparés pour le combat. Dieu peut faire de nous des vaillants guerriers. Mais il ne veut pas nécessairement utiliser cette façon-là, ces armes-là, pour remporter la victoire. Et ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous présumions qu'il faut faire d'une façon ou d'une autre. Dieu attend que nous nous rangions de son côté. Que nous fassions les choses selon sa perspective. Pas en fonction du schéma que nous avons. Pas en fonction même des circonstances telles que nous pouvons les voir devant nous. Et c'est ce que disait ce pasteur, n'est-ce pas ? Bien entendu, nous sommes en prison. Bien entendu, nous sommes martyrisés pour ce que nous croyons et ce que nous professons et ce que nous confessons. Mais ce n'est pas parce que le tableau est terrible que Dieu souhaite absolument changer les choses. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous pensons qui est bien. Ce qui est important, c'est que nous nous soumettions au chef de l'armée de l'Éternel et que nous agissions en fonction de ce que lui a prévu. Imaginez juste que Josué dise, bon, on va le mettre en quarantaine, lui, on va attendre. On va faire ce pourquoi on est venu. On va aller lutter pour détruire Jéricho. Je pense qu'ils auraient perdu. Ils n'auraient pas gagné la bataille. Et pourtant, ils auraient dit, mais nous avons accompli ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous sommes rentrés dans le pays, promis, et Dieu avait dit, tout ce que la plante de vos pieds foulera, eh bien, vous appartiendra. Nous avons occupé le terrain. Nous avons fait les choses. Et nous n'avons pas gagné. Et bien entendu, une multitude d'interrogations seraient nées de cet échec. Et la réponse ne serait pas venue, sauf si le chef de l'armée de l'Éternel l'avait révélé. Peut-être que dans nos vies, nous avons des impasses, n'est-ce pas ? Nous avons des points d'interrogation extrêmement importants. Parce que nous sommes passés en force. Nous sommes passés par la logique. Nous avons réfléchi comme des humains sensés et rationnels. Et nous avons accompli les choses telles que nous avions envie de les accomplir pour nos propres envies, mais pas les envies de Dieu. Et je crois que, n'est-ce pas, Dieu attend que nous accomplissions ses envies à lui. Dieu a des envies, Dieu a des besoins, Dieu a des projets qu'il nous confie. Et il souhaite que nous les accomplissions avec lui. Et cette histoire avec Josué montre que, voilà, il est nécessaire d'être prêt spirituellement pour entrer dans certains combats parce que c'est lui qui doit les mener et nous devons combattre selon ses règles à lui et pas selon nos propres règles. Alors, je n'ai pas réussi à tout finir. Il y a tout le volet intercession. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque nous avons intégré les règles divines, lorsque nous savons comment Dieu souhaite que nous fassions et que nous prions, alors nous avons une certitude, c'est que Dieu va exaucer nos prières. Et juste, je vais vous donner les titres concernant l'intercession. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous voir et nous entendre prier? Alors, il y a pas mal de situations où nous devons intercéder. Mais curieusement, si vous lisez dans la parole, tout ce qui concerne la guérison et la délivrance, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'occurrences de prières pour la guérison et la délivrance des maladies. Il y en a, mais elles ne sont pas extrêmement importantes. Par contre, il y a de nombreuses occurrences pour, notamment lorsque Paul priait, il priait pour que, il intercédait pour que Dieu lui ouvre la porte des églises à qui il avait écrit. N'est-ce pas? Il demandait que Dieu lui permette d'accéder physiquement dans ces endroits pour pouvoir parler et communiquer avec ces chrétiens qui sont là. Et là, il avait une grande conscience de la direction de Dieu. Il disait parfois que Dieu l'avait empêché d'aller, et à d'autres moments, il avait ouvert la possibilité d'aller. Donc l'intercession pour que Dieu rende possible la rencontre des chrétiens dans les églises naissantes. L'intercession aussi pour la formation du caractère de Christ dans les chrétiens. Paul priait cela beaucoup. Éphésiens 1, 16, 17, que Dieu vous donne esprit de sagesse, de révélation, que vous sachiez comment, voilà. Ça, ce sont les paroles de Paul, et c'était pour cela qu'il intercédait. Colossiens 4, 12, que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, il priait pour ces choses-là. Et il savait que cela correspondait à ce que Dieu voulait pour son peuple. Nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Donc tout ça, c'était des prières, des intercessions que Paul faisait pour le peuple de Dieu. Il y a une autre intercession, celle de l'intercession pour nos ennemis. Là aussi, la parole de Dieu en parle, n'est-ce pas? Jésus lui-même, déjà, a commencé par cela. Donc, priez pour ceux qui vous persécutent. La prière pour le salut d'Israël, n'est-ce pas? Qui étaient les persécuteurs, il ne faut pas l'oublier à l'époque. Et Paul priait pour ce peuple. Il priait pour que Dieu les amène à la connaissance du salut. L'intercession pour la propagation de l'Évangile. Ça aussi, c'était une des prières maîtresses des apôtres, n'est-ce pas? Et dans Actes, on voit comment ils prient et demandent à ce que l'audace leur soit donnée, à ce que l'assurance leur soit donnée. Voilà, priez, Éphésiens 6, 18, priez qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Tous ces sujets de prière, toutes ces intercessions, Dieu va répondre favorablement à chacune des prières que nous faisons lorsqu'il nous combattons à ses côtés et lorsque nous prions pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans les personnes qui sont autour de nous. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas prier pour les malades. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas prier pour la délivrance des gens qui sont en difficulté. Mais voilà, en tout cas, il y a toujours ce risque, ce danger de vouloir prier pour nous dans ces circonstances-là, et on le comprend très bien. Et Dieu n'est pas insensible à cela. Mais ce que Dieu souhaite avant tout, c'est que nous nous rangions du côté du capitaine de l'armée de l'Éternel, que nous réalisions que nous sommes sur une terre qui est sainte et que à cet endroit-là, il n'y a que ce que Dieu a prévu qui peut se produire et porter du fruit. Voilà, je vais vous laisser avec cela. Ce que j'aurais aimé faire finalement, c'était prier dans chacun de ces trois temps de remerciement, de confession et d'intercession. En tout cas, rappelez-vous cela, n'est-ce pas? Remerciez Dieu parce qu'il nous a choisis. Lorsque vous remerciez Dieu pour les circonstances de votre vie, eh bien, vous êtes en train de lutter contre l'amertume. N'est-ce pas? Si vous avez une amertume dans votre cœur, eh bien, prenez le parti opposé et dites, « Oh Dieu, merci pour la chaleur du jour. Oh Dieu, merci pour la fraîcheur de la nuit. Oh Dieu, merci pour la maladie. » Ça, c'est la délivrance. Lorsque vous savez que vous pouvez prier comme cela, et au fur et à mesure que vous développez votre prière, vous allez sentir en vous la puissance de Dieu qui va vous élever et qui va faire de vous des vainqueurs, des victorieux. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je suis triste de repartir, mais bon, voilà. En principe, on sera là, j'espère, aux alentours de Pâques. Enfin, on verra quand ce sera possible. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Mais nous prions, Brigitte et moi, que le Seigneur vous préserve, vous encourage, et surtout que ce qui se passe ici puisse porter du fruit dans bien des endroits plus tard. Voilà.